Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
C'est un des personnages les plus célèbres du paysage audiovisuel français. Sur Internet, les sites dans lesquels on retrouve son nom sont innombrables. Il a eu le mérite de rendre la culture sympathique et vivante et celui de faire entrer les écrivains dans les maisons françaises. Aujourd'hui, celui qu'on devine aimant les mots et aimant la vie nous propose à son tour un ouvrage, Le Dictionnaire amoureux du vin, édité chez Plomb. Bernard Pivot, bonjour.
Bonjour.
Alors, ouvrez les guillemets, apostrophe, bouillon de culture pour ne citer que vos émissions les plus connues, la revue Lire dont vous avez été le père avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, ont fait que vous avez grandement contribué à la diffusion de la culture, et cela d'une manière tonique et naturelle. Mais on oublie souvent que vous avez débuté votre carrière dans la presse écrite, mais quand Plomb vous a demandé d'écrire cet ouvrage, avez-vous eu peur de passer de l'autre côté de la barrière ?
Non, parce que j'ai pas l'impression de passer de l'autre côté de la barrière. D'abord parce qu'il m'est arrivé déjà d'écrire quelques petits ouvrages, mais au contraire, maintenant, étant dans une sorte de semi-retraite, puisque je ne fais plus de télévision, il me semblait que c'était agréable de consacrer un peu de temps à la rédaction d'un ouvrage dont j'avais l'eau à la bouche, puisqu'il s'agit du vin. Et simplement, aujourd'hui, je mène la vie d'un de ces écrivains que j'ai si souvent interviewé pendant 28 années de ma vie, et donc je mène un peu leur vie, à savoir je me suis enfermé pendant un an pour écrire cet ouvrage, et puis maintenant je fais ce que beaucoup connaissent, à savoir une sorte de campagne, ce qu'on appelle de promotion.
Oui, en plus vous entrez directement dans une maison d'édition prestigieuse.
Oui, bien sûr, oui. Bon, en fait, j'ai déjà publié un ouvrage chez Gallimard par exemple, qui est aussi une grande maison,
connu.
Et puis j'ai publié des livres sur les mots, notamment les 100 mots à sauver chez Albin Michel. Donc moi je n'ai pas d'éditeur attitré, je vais là où je pense qu'il est bon d'aller.
Oui. Alors le vin fait aussi partie de notre culture, bien sûr, mais lui consacrer un dictionnaire amoureux, est-ce que ça signifie que vous avez eu vraiment des coups de cœur pour le vin, ou que celui-ci a su vous rendre heureux, amoureux de la vie, amoureux des autres?
Les deux. Moi j'ai toujours associé le vin à des petits bonheurs quotidiens, c'est-à-dire boire un verre de vin pendant qu'on déjeune ou qu'on dîne, et puis j'ai toujours associé le vin à des grandes fêtes, des grandes fêtes religieuses, des grandes fêtes amicales, des grandes les grands rendez-vous de la vie, quoi. En France, on ne sait pas se rencontrer à l'occasion d'un baptême, de fiançailles, de mariage et même d'enterrement sans boire un verre, sans boire et tant qu'à faire un très bon vin. Donc le vin a toujours fait partie de ma vie, et de surcroît, ce que je raconte dans le livre, c'est que je suis né certes à Lyon, mais j'ai été élevé dans une région viticole, c'est-à-dire le Beaujolais, où pendant, j'ai même passé la Deuxième Guerre mondiale, c'est les 5 années de la guerre, dans un village du Beaujolais, Quincy-en-Beaujolais, et ma première école a été une école communale, au milieu des vignes.
Oui.
Et j'essaie d'expliquer, notamment dans cet ouvrage, que les garçons et les filles qui naissent, qui grandissent dans des régions viticoles sont un peu différents des autres, parce que
la vie est rythmée peut-être.
Voilà, il y a le rythme des saisons, la peur du gel, la peur de la grêle, et puis il y a l'euphorie des vendanges, et puis il y a la fréquentation des vignobles, du déchet, des pressoirs, des caves, et puis le plaisir de parler du vin. Donc il y a toute une convivialité, même une joie de vivre qu'on trouve particulièrement développé dans les vignobles.
Et puis vous avez vécu à Lyon, et alors j'ai toujours en tête le mot de Léon Daudet qui disait que Lyon est arrosé par 3 fleuves.
Voilà.
Le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Oui. Alors, vous avez fait, je crois, une partie de vos études dans un établissement religieux. Alors je me suis amusée à chercher parmi les innombrables proverbes. C'est fou, sur Internet, tout ce que vous pouvez trouver comme littérature au sujet de, comme proverbe, poème au sujet du vin. Alors, des proverbes reliant ce breuvage à la spiritualité. Qui bon vin boit, Dieu voit. Boire du vin, c'est être bon catholique. Et puis un proverbe allemand, si tu bois du vin, tu dormiras bien. Si tu dors, tu ne pécheras pas. Et si tu ne connais pas de péché, tu seras sauvé. Bois du vin, c'est le salut.
Oui. Bon. Tout ça me paraît un peu court léger, et un peu léger. Raide, mais c'est amusant.
Voilà. Oui, mais vous, alors, vous parlez aussi de la nature métaphysique.
Ah, ben moi, je ne peux pas... le vin, et beaucoup de gens dans ce pays, aujourd'hui, l'ignorent ou l'oublient. Le vin est lié à la mythologie, à la religion. Le vin est d'ailleurs d'abord le seul produit de consommation qui est un dieu dans la mythologie. C'est Bacchus, c'est Dionysos chez les Grecs et Bacchus chez les Romains. Et ensuite... Et on ne peut pas oublier que le vin fait partie, mais d'une manière très intime, de notre civilisation judéo-chrétienne.
Dans la Bible, il y a bien des moments.
Il y a plus de 400 citations du vin dans la Bible. Le vin est présent, évidemment, dans l'Iliade et l'Odyssée. Puis surtout, alors, le vin a une importance considérable dans les évangiles. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a plusieurs références dans les évangiles à la vigne, au vin, au sarment, au... et alors que dans la Palestine de l'époque, il y a certes des vignobles, mais ce n'est pas la principale culture. Donc on voit très bien que c'est à se demander si déjà Jésus ne sait pas que... presque au dernier jour de sa vie, il fera un miracle avec le vin.
Le dernier jour de sa vie, maintenant que vous me le dites, je pense qu'en fait, on lui a donné du vinaigre à boire.
Non, ça, ce n'est pas attesté, hein, pas du tout. Ah, le vinaigre, oui, sur la croix.
Sur la croix.
Ah oui, sur la croix, oui. Enfin, ben, ça, c'est... Oui,
oui.
Oui, ben, oui, c'est horrible.
C'était vraiment du mauvais vin.
Oui, oui, ça, le vinaigre, oui. Mais oui. Non, non, mais enfin, le jeudi de la scène, il change.
Oui, bien sûr.
Et alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas de quelle était la couleur du vin.
Et voilà, parce que vous parlez aussi de ce fameux vin blanc, puisque lors des messes, c'est du vin blanc.
Oui, alors pendant longtemps, ça a été du vin rouge dans la religion catholique. Et d'ailleurs, dans la religion orthodoxe, c'est toujours du vin rouge. Et c'est vrai que la métaphore du vin et du sang impose le vin rouge.
Oui.
Et alors maintenant, c'est du vin blanc. On peut dire la messe avec du vin rouge, hein, ça n'est pas interdit.
Mm-hmm.
J'ai lu le droit canon là-dessus, c'est très précis. Il faut que ce soit vraiment du vin fermenté, il faut du raisin fermenté. Et il ne faut pas que ce soit du raisin bouilli, il faut vraiment qu'il y ait une fermentation du... Et il ne faut pas que ce soit une piquette en plus. Mais on a abandonné le vin rouge vers le 14e, 15e siècle, à ce moment-là, parce que le vin rouge, évidemment, tachait d'une manière honteuse le linge liturgique. Et que le vin blanc, les taches de vin blanc ne se voyaient difficilement. Donc c'est pour des raisons de sacristie...
Les lavandières protestaient.
C'est pour des raisons de sacristie que le vin rouge a été abandonné à la messe.
Voilà. Alors moi, je vois également un rapport entre votre goût pour les mots et le goût pour le vin, tout ce qui est œnologie, celui du plaisir des sens, bien sûr, parce que quand vous parlez des mots, vous dites qu'ils ont un goût, une couleur, un volume, des arômes, et il y a des mots que vous n'aimez pas, cucurbitacé, ça m'a fait rire, mais c'est peut-être qu'il y a des analogies.
Entre
les mots, le vin, il y a des...
Ah ben, non mais attends, les mots disent le vin et les vins disent les mots. Il y a une adéquation parfaite entre, par exemple, dans le langage de l'ivresse, c'est incroyable, la richesse du vocabulaire français pour désigner les états de l'ivresse, ou la richesse du vocabulaire français pour désigner les mauvais vins, c'est-à-dire les picrates, les pistrouilles, les chasse-cousins et autres mots qui désignent des vins atroces, cette richesse vocabulaire est considérable, considérable.
Et alors, ce dont je me suis souvenu aussi, c'est qu'enfant, on nous apprenait, et je ne crois pas qu'on le fasse maintenant, des chansons concernant les vendanges.
Ah ben, il y a beaucoup de
vignes en vigne.
Oh ben, surtout alors dans ma Bourgogne, alors là les chants vineux, les chansons à boire sont innombrables.
Oui.
Et elles se perdent un peu, malheureusement, on les chante de moins en moins, sauf certains soirs, certains samedis soirs à Claude Vougeot, lors des réunions, lors des dîners bachiques des chevaliers du Tastevin. Alors là, effectivement, on chante chante, je suis fier d'être bourguignon, la Bourgogne,
oui.
etc.
Alors ça, on l'apprenait à l'école.
Ça, on l'apprenait à l'école.
Et ça, je crois que ce n'est plus politiquement correct.
Ah non, alors là, ça, oui, alors vous êtes traduit devant le conseil des parents.
Oui, alors, donc, dictionnaire du amour et du vin. Dictionnaire, oui, puisque vous abordez les thèmes par ordre alphabétique, mais ce n'est pas tout à fait un dictionnaire non plus. C'est, vous avez pris suivant vos coups de cœur.
Ah bah oui, bien sûr. Non, mais chacun fait...
Cette collection, c'est
son principe. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Et c'est un livre très personnel. Hein.
Oui, il n'y a pas de liste exhaustive.
Non, pas du tout. Évidemment, je parle de tous les vignobles français, pratiquement, mais aussi, je parle aussi du Jurançon, je parle aussi évidemment des vins liquoreux de la Loire, et pas seulement du château d'Yquem. Donc on parle un peu de tout, mais l'intérêt d'un livre comme celui-ci, c'est que l'auteur soit présent dans ses choix, qu'il se raconte un peu. Et donc je raconte mon enfance, je raconte mes vendanges, je raconte comment, grâce au Beaujolais, je suis entré au Figaro littéraire, et donc c'est grâce au Beaujolais que je suis devenu un journaliste spécialisé dans les livres. Ça, vos auditeurs découvriront.
On va pas tout dire.
On va pas tout dire, mais c'est vrai que c'est un miracle, si j'ose dire. C'est un vrai miracle par lequel je suis arrivé à la littérature grâce au vin. Et donc le vin a joué un grand rôle
vous
dans ma vie.
Vous lui devez beaucoup.
Je lui dois beaucoup. Donc c'était une manière de lui rendre hommage et de le remercier des bienfaits qu'il m'a apportés.
Bernard Pivot, si vous le voulez bien, on fait une pause musicale. On essaiera de trouver une chanson à boire, une de ces chansons qui font partie de notre culture.
Présence. Descend vers la mer, où la montagne arrête les yeux et le cœur. Sur cette terre aride, où l'on respire la garrigue et tous les parfums du romarin. Sur cette terre magique des Qatars, la vigne de mon père. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne de mon père. Je l'ai parcouru cette terre. Partout ailleurs, j'ai compris pourquoi le Seigneur du temps s'en était allé au mont des Oliviers. Je leur ai donné ma terre et le pain et le vin. Ils ont reçu la lumière et la vigne. La mer, le vent du sud emporte avec lui toutes les odeurs de la terre et un peu de nous au passage. Et le vent bouge les vagues et il use les pierres sans jamais nous quitter tout au long des saisons. Sur cette terre, gorgée de soleil, j'ai cueilli le raisin de mon père. Sur cette terre, qui descend vers la mer, j'ai taillé et la vigne de mon père. Je leur ai donné ma terre.
Je suis en compagnie de Bernard Pivot qui vient nous parler du dictionnaire amoureux du vin édité chez Plon. Et dictionnaire amoureux, vous avez eu plaisir à écrire ce dictionnaire.
Un grand plaisir.
Et
je n'aurais pas
écrit.
J'aurais pas écrit si j'avais pas. Si d'avant, je n'avais pas
su. Au départ, oui. Vous saviez d'avance que ce serait un plaisir.
Ah ben oui. Alors ça, c'était évident. Alors pour moi, j'ai pas eu l'ombre d'un doute. Alors là, je savais qu'en racontant le vin, en m'amusant à Parce que le vin, comme je vous l'ai dit précédemment, a joué un grand rôle dans ma vie, mais aussi il y a beaucoup de questions que je me posais sur le vin. Je me disais, mais pourquoi les Anglais ont-ils inventé le tire-bouchon? Pourquoi les Gaulois ont-ils inventé le tonneau? Pourquoi Alors par exemple, on en a parlé tout à l'heure, pourquoi dit-on la messe aujourd'hui avec du vin blanc et non pas avec du vin rouge? Pourquoi, par exemple, Saint-Vincent, qui n'a aucun rapport avec le vin, est-il devenu le patron des vignerons? Enfin bref, je me posais, pourquoi, par exemple, dans les tastevins, le fond est tapissé d'un côté de strie et de l'autre côté de je ne sais pas comment dire, j'ai oublié le nom,
terme,
de concave et convexe, voilà. Oui. Et donc, je me suis posé toutes ces questions, donc je savais que j'allais y trouver des réponses, que j'allais beaucoup m'amuser à piocher dans une documentation considérable.
Oui, c'était une occasion faire des recherches.
De m'informer, de m'enseigner, de me cultiver, et donc à travers ce livre, de cultiver et d'informer les gens.
Alors, si vous voulez bien, un tout petit extrait, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Certains soirs, tandis que j'écris ce livre, je ressens une très légère griserie, le début d'une douce ivresse. L'évocation ininterrompue de mots du vin en est la cause. Ils sont chargés d'alcool, de parfums et de rêves. Ils s'installent dans le cerveau, d'où ils chassent provisoirement les mots du quotidien. Ils activent la circulation du sang. Je me sens littérairement un peu paf. Si je devais y souffler, quelle serait la couleur du ballon? Voilà. Et les mots, c'est M-O-T-S, hein, tout de même.
Oui.
Faut préciser.
Oui, oui. Non, mais c'est vrai qu'à certains moments, le soir, quand il était tard, que j'écrivais sur le vin, je sentais en moi une légère griserie. J'aurais soufflé dans un ballon, évidemment, le ballon n'aurait pas changé de couleur, ça va de soi. Mais je sentais cette petite griserie de l'esprit et que procurent les mots, le plaisir des mots, le mode de jouer avec les mots et ce rapport entre la sensualité des mots et la sensualité du vin, entre le plaisir de la dégustation, la richesse. Donc je sentais cette griserie en moi que je ne ressentais pas tous les soirs, bien entendu, puis ça dépend sur quel article j'écrivais. Mais c'est vrai, quand d'un seul coup j'écrivais le mot Bourgogne, ou quand j'écrivais Niafron, ou j'écrivais Bacchus, ou j'essayais de me pencher sur les explications du tastevin, du tonneau et autres, j'éprouvais cette griserie.
Oui. Alors nous, on éprouve beaucoup de plaisir à lire, et en particulier, alors il y a des passages vraiment très amusants, parce que ces passages relatifs à l'acte de boire, en matière de vocabulaire, là vous avez fait une liste plutôt exhaustive, je dirais, parce que pour synonyme d'ivrogne, je ne savais pas qu'existait le mot pionnard.
Ah oui.
Le galop chopine, c'est formidable.
Ah,
c'est bien.
Mais je vous dis, il y a des mots extraordinaires. Le peuple a inventé des mots inouïs. Un, pour dire l'ivresse, et deux, pour désigner des mauvais vins. Pour
le boisson soif, c'était connu, mais c'était tellement, tellement imagé. Mmh. Mais le galop chopine, je trouve ça très bon.
C'est très joli, le galop chopine.
Pour quelqu'un qui se saoule, et on peut dire aussi, il se pivoine. Ça aussi, je ne savais pas.
Il se pivoine.
Il se poivre.
Oh, oui, il se poivre.
Alors, vous voyez, j'ai posé une question à un groupe d'amis, là, mais on était en manque. On a calé.
Oui, mais c'est vrai, mais ça, c'est des grands. Et alors, malheureusement, ces mots disparaissent un peu. Ils disparaissent, c'est un peu dommage. Surtout les mots qui désignent les très mauvais vins, parce que ces très mauvais vins disparaissent eux aussi. Et je ne sais pas s'il faut se plaindre.
Il faudra les prêter à d'autres pays, peut-être.
Oui, peut-être. On peut regretter que certains mots disparaissent avec les mauvais vins qui les désignaient. Je crois quand même qu'il vaut mieux qu'il y ait moins de mauvais vins.
Ouais,
qu'il y ait moins de mauvais vins.
Alors oui, si on peut dire il a un coup dans le nez, on connaît évidemment cette expression, où il a un coup dans les carreaux, ou dans le gilet, ou dans les brancards.
Oui,
ça, c'est étonnant.
Dans les brancards, dans le gilet, oui, ça se dit, oui, c'est autrefois. Alors, oui, parce qu'autrefois, les hommes portaient des gilets, donc il a un coup dans le gilet.
Et puis les brancards, eh bien, c'était bien les voitures à chevaux. Oui. Donc il y avait... Alors, en état d'ivresse, il a chaud aux plumes, il a ramassé un malheil, alors je ne sais pas ça, et qu'est-ce que... Une malle, pardon.
Il a ramassé une malle. Ça c'est connu, ça.
Oui. Il est complètement dématé, je suppose que vous l'avez emprunté au langage des marins.
Oui, c'est les
parce
c'est
que là aussi, qui dit ça. Il ne suçait pas des cordes de puits. Vous ne l'avez pas mis cette expression-là.
Oui, c'est vrai, oui. Mais dématé, mais Ulysse, d'ailleurs, s'est fait attacher au mât de son bateau pour résister au chant des sirènes.
Oui.
Et on dit que, je ne sais plus, qu'un jour il a poussé des pampres au-dessus du mât de son bateau. Je crois
que ce bois n'était pas mort.
Oui, non, voilà.
On dit aussi gris comme un cordelier.
Oui, c'est joli, ça. C'est joli. Mais c'est des mots un peu qui d'une autre époque.
Hein. Oui, oui. Alors, je pense que c'est des expressions. Alors, vous avez fait une recherche.
Oui, bien sûr.
De différentes régions.
Mais d'abord, il y a des livres spécialisés qui sont là-dedans. J'ai consulté évidemment j'ai pas consulté la région, mais il y a des ouvrages spécifiques du parler de chaque grand vignoble. Oui. Alors, il suffit de les consulter. Et puis, il y avait beaucoup de mots que je connaissais, moi. Oui. Par exemple, les mauvais vins, par exemple, les chasse-cousins ou le brise-ménage, ça, c'était quand même des mots très connus que j'ai entendu dans mon enfance.
Chasse-cousin, c'est excellent, ça. Aussi.
Chasse-cousin, c'est-à-dire, ça voulait dire que même les cousins, c'est...
Vous ne pouvez pas rester.
Un cousin, c'est évidemment...
Une sorte de moustique ?
Oui, c'est un moustique.
Je croyais que même la famille s'éloignait.
Non, pas du tout. Non, chasse-cousin, ça veut dire que même les moustiques en ont peur.
Oui,
tellement le cousin lui-même ne veut même pas approcher de ce vin tellement c'est mauvais. En tout cas, c'est l'expression que j'ai trouvée dans Pierre Perret, dans mon ami Pierre Perret.
Qui n'habite pas très loin d'ici. Évidemment, il y a l'évocation des vendanges. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, puisque vous étiez enfant... dans le Beaujolais. Et c'est vrai qu'on a tous connu à une époque, pour la plupart, disons, ces périodes de vendanges. Et alors, est-ce que ça se perd, ça ?
C'est la grande joie des vendanges, le grand plaisir, ce grand bonheur de couper le raisin n'est plus tout à fait le même qu'il y a 40 ans, parce que, comme je lis dans le livre, aujourd'hui, Bacchus cotise à l'URSSAF. Et donc, autrefois, il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas de loi sociale, donc peut-être même on en exagérait. Souvent, les coupeurs étaient un peu à la merci des patrons.
Alors, il n'y avait pas beaucoup de fêtes non plus, donc
mais,
c'était...
Mais il y avait beaucoup plus de joie. Oui. Chaque dimanche, en tout cas dans le Beaujolais, en Bourgogne, on dansait, on faisait les fous. Et aujourd'hui, c'est un peu plus réglementé. Mais il y a quand même, il reste quand même ce plaisir de couper le raisin, annonciateur de bon vin, annonciateur de joie, de libation. Et il y a quand même toujours un esprit de la fête qui est lié aux vendanges.
Oui, beaucoup plus qu'aux moissons.
Bien sûr.
Alors évidemment... On ne se refait pas. Vous évoquez les livres, les écrivains et le vin.
Oui.
Et il y en a toute une série. Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a énormément de poèmes sur le vin, de bons et de mauvais. Mm-hmm. Mais vous évoquez Apollinaire, bien sûr, et bien d'autres. Shakespeare comme Hergé, ça, c'est drôle, finalement.
Oui, parce que j'ai tout mis là-dedans, tout ce que je connaissais. Il y en a beaucoup d'autres qui ont écrit des poèmes sur le vin et qui en ont écrit de mauvais, d'ailleurs. J'ai pas mis, par exemple, les poèmes de la Renaissance, parce que ils mettent toujours Bacchus, Célène. Oui. C'est toujours mythologique. Je trouve ça un peu pesant et ennuyeux. Mais l'écrivain qui, pour moi, parle le mieux du vin, et qui pourtant n'a jamais écrit un livre vraiment sur le vin, entièrement sur le vin, c'est Colette. Colette, pour moi, c'est une...
C'est... Mais c'était une fille de la terre.
Ah bah oui, une fille de la Bourgogne. Alors, pas de la Bourgogne viticole, de la Puisaye, c'est-à-dire la Bourgogne des forêts et des étangs.
Oui. Mais elle avait cette sensualité.
Ah, la sensualité, cette sensualité qu'elle avait, qui faisait qu'elle dit, qu'elle écrit merveilleusement bien, pas seulement sur les vins de Bourgogne, mais qu'elle a écrit sur le Beaujolais, qu'elle a écrit sur le vin de Frontignan, sur le Jurançon, sur le Champagne, bien entendu. C'est merveilleux de lire Colette. C'est jamais très long, hélas, mais c'est superbe. Notamment, il y a des choses très belles dans son livre qui s'appelle La Treille Muscate. C'est admirable, c'est vraiment très joli. Et c'est un régal. Je fais des citations dans le livre de Colette et c'est une merveille de chaque fois de lire.
Alors, Jim Harrison, dont vous parlez, et qui est, on le sait, amateur de bonne chère et de bon vin français, est-ce qu'il en parle bien ?
Oui, il parle très bien, mais lui, il parle. C'est plutôt un écrivain bachique, lui. Il est plus près de. Il est plus près.
Il est plus dans la consommation.
Non, il est plus. Il est plus près de Rabelais que de, de Colette, lui.
Donc c'est truculence.
La truculence, le bon vin, les grands repas, mais on sent très bien qu'il aime les vins. Mais enfin, lui, il aime à la fois il aime le paquet complet, c'est-à-dire qu'il aime les bons plats français et les bons vins qui vont avec.
Bernard Pivot, nous faisons une autre pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Présence.
Des mots pour parler de ces mots, pour parler fort, pour parler haut. Des mots prononcés pour l'histoire, des mots sortis de la mémoire. Des mots charmants, des mots d'enfant, des mots pour papa et maman, des mots nouveaux au dictionnaire. Des mots en langues étrangères. Des mots écrits, des petits mots, des mots crachés qui font gros mots. Des mots, des mots. Toujours des mots, il faudrait se méfier des mots. Des mots pour jouer avec les mots, des mots riches et des mots idiots, des mots pour mentir sans vergogne, des mots tendres et des mots qui cognent. Des mots insensés ou abscons, des mots savants ou des mots cons, des mots chuchotés à la messe, et des mots pour parler de fesses. Des mots pour aider son prochain, des mots pour vendre son voisin. Des mots, toujours des mots. Il faudrait se méfier des mots. Des mots pour rassurer parfois, des mots semant le désarroi. Des mots chantants, des mots intimes, des mots cruels qui poussent au crime. Des mots snobs et des mots d'argot, des mots tranchants comme un couteau, des mots auxquels le cœur succombe, des mots prononcés sur les tombes, des mots vides et des mots ronflants, des mots qui détruisent les gens, des mots, toujours des mots, il faudrait se méfier des mots. Des mots perfides et sentencieux, des mots pour s'adresser à Dieu, des mots qui restent symboliques, des mots pour les nuits érotiques, des mots qu'on voudrait oublier, des mots très durs à prononcer, des mots qui vous envoient vous battre, des mots prestigieux de théâtre, des mots simples et des mots d'amour, des mots rimant avec toujours. Des mots, toujours des mots, il faudrait se méfier des mots.
Nous revoici avec Bernard Pivot pour son ouvrage Dictionnaire amoureux du vin. C'est une belle collection qu'a lancé Plon et on en est au 10e ouvrage au moins.
Oh non, 20e.
Plus 20e sur les dictionnaires amoureux avec des écrits par des personnes, des personnalités du monde artistique et audiovisuel
et littéraire.
Et littéraire, pardon,
surtout littéraire.
Le littéraire pour moi, c'est artistique.
Michel Del Castillo, Solers, il y a beaucoup de très bons écrivains.
Plusieurs fois, oui, c'est vrai. Oui, alors évidemment, vous évoquez, il y a des passages vraiment passionnants, la dégustation à l'aveugle, oui. Les difficultés, mais ça peut être
oui.
tragique.
Bon, non, oui, ah, ben absolument, oui, non, mais dégustation à l'aveugle, c'est pas. Les gens disent c'est une école de modestie, non, c'est plus que ça, c'est une école d'humilité. C'est,
oui.
c'est,
et d'humiliation parfois.
Et parfois d'humiliation. Oui, 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 je raconte par exemple Émile Peynaud, le grand œnologue bordelais, qui a hélas disparu, que j'avais invité, et pour lui faire plaisir, je fais une dégustation à l'aveugle facile, je lui avais fait deviner un Haut-Brion. Donc je pensais qu'il allait découvrir ça tout de suite. Et malheureusement, ce que j'ai oublié, c'est quand dans une émission en direct, sous les sunlights, sous la pression du direct, on perd une partie de ses moyens, il s'est troublé, et tout d'un coup, évidemment, il a trouvé que le vin n'était pas bon, il s'est trompé. Donc, et je regrette beaucoup d'avoir, parce que j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration pour cet homme qui est un très grand œnologue, et finalement, à mon insu, pour qu'il brille à bon compte, hélas, je l'ai piégé. Voilà. Donc je raconte ça dans le livre, et c'est resté pour moi une blessure, n'exagérons pas, mais c'est un regret. Voilà. Oui. C'est un regret.
Alors, ce que vous dites aussi, la grande majorité des amoureux du vin, s'ils sont à peu près capables d'expliquer ce qu'ils ressentent, d'analyser ce qu'ils dégustent, ne sont pas des pifs de la Mirandole, aptes à mettre sans se tromper des noms et des millésimes sur des vins mystères. Il arrive qu'on ait un peu de chance, qu'on tombe sur une bouteille dont on avait récemment bu l'appareil ou la cousine, ou sur un terroir qui produit des vins auxquels nos papilles se sont souvent frottées, que par comparaison entre plusieurs appellations, on en distingue quelques-unes avec un peu plus de certitude. Le pire, c'est le vin unique, la bouteille solitaire, qui sans préparation, sans cri égard, et donc sans comparaison possible, on vous somme d'identifier. Toujours refuser ce genre d'acrobatie, sauf si l'on a du génie dans le tarin. Mmh. Bon, en plus, c'est drôle.
C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Hein. Oui. C'est vrai, sauf si vous êtes un sommelier champion du monde, et là, ce sont des hommes exceptionnels.
C'est un Italien en ce moment, non ?
Oui, c'est ça, oui, c'est un Italien. Il s'appelle Bernardo. Oui. Oui, donc sauf si vous êtes vraiment un très grand sommelier, que vous avez un pif de la Mirandole, comme je dis. Alors là, d'accord, là, vous pouvez vous y risquer, ouais. mais ouais. les gens ordinaires comme moi, qui, même si on aime beaucoup le vin, on sait que très bien qu'on peut nous leurrer. On peut nous égarer, et donc il ne vaut pas se risquer à ce genre de dégustation à l'aveugle comme ça, sans préparation.
Alors, vous parlez de sommelier, mais moi j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup de sommelières. Est-ce qu'on dit sommelière sans doute ?
Oui, oui, on dit sommelière.
De plus en plus de femmes.
Oui, oui, mais beaucoup. Mais tout simplement parce que j'ai toujours remarqué que les femmes, généralement, ont un meilleur palais, un meilleur odorat que les hommes.
Oui, j'ai entendu dire aussi.
Et donc, elles sont particulièrement remarquables dans la sommellerie et dans l'œnologie. Et d'ailleurs, les femmes envahissent de plus en plus, et c'est tant mieux, les métiers du vin. Non seulement il y a des sommelières, des jeunes sommelières dans les grands restaurants, il y a des œnologues femmes, mais surtout, il y a des femmes patronnes de domaines, de grands domaines viticoles.
Oui, oui. Les dans
femmes,
le Bordelais aussi.
Ah, ben, pas seulement le Bordelais, dans la Bourgogne, dans l'Alsace, enfin, pas partout, il y a des femmes maintenant qui savent diriger des vignobles avec autorité et avec compétence.
Mmh. Alors, on apprend quantité de choses dans votre livre, et ce qui a trait à la guerre, à la dernière guerre, moi je ne savais pas qu'on avait caché les grands crus souvent.
Ah, oh ben oui, bien sûr, parce que vous savez que les Allemands ont commencé à piller nos caves en 1815, après la bataille de la défaite de Waterloo.
Ah, ils ont du goût.
Eux aussi, ils aiment fêter leur victoire, donc ils ont emporté des dizaines de milliers de bouteilles de champagne, qui en Prusse, qui en Russie, qui en Angleterre. Et après, ils ont pris le rythme, et donc après la guerre de 70, rebelote.
Idem.
Alors en 14, heureusement, ils n'ont pas franchi le. Ils n'ont pas pu franchir plus loin que la Champagne. Mais en 40, évidemment, là, ça a été sauf qui peut. Mm-hmm. Et par exemple, un grand restaurant comme la Tour d'Argent à Paris, quand les Allemands ont commencé à déferler, ils ont muré une partie des réserves extraordinaires de ce restaurant, une cave prodigieuse. Ils les ont murées pour qu'ils échappent à la convoitise des très vieux Porto de 1890, et même, je crois même, de la Révolution française, des grands des grands Bourgognes, des grands Bordeaux du début du siècle qu'ils ont muré pour que les Allemands ne s'en emparent pas. Oui, bien sûr. Et puis il y a beaucoup de gens, même dans des châteaux, qui ont planqué leur réserve de vin, qui dans la terre, qui dans une grotte, qui aussi entre deux murs.
Encore fallait-il qu'ils ne perdent pas les mémoires ou qu'ils ne disparaissent pas sans laisser. Ça, il y a peut-être des vins.
Oui, ça, j'y crois pas trop. Ça.
Alors.
Mais ce que je dis, j'ajoute aussi, et une chose quand même qui est pas très agréable pour notre fierté, c'est que je crois qu'il y a eu beaucoup plus de juifs et de communistes et de gaullistes dénoncés que de caves. Mmh. Ça en dit long.
Oui, comme vous dites, oui. Alors, puisque nous sommes dans le sud-ouest, parlons un petit peu de ces vins. Alors, évidemment, le Jurançon, on a tous appris, là aussi, je ne sais pas si ça fait encore partie du programme, que Henri IV a été...
Moi, je l'ai appris à l'école communale de Quincy-en-Beaujolais, ça.
Oui, mais...
C'est même la première fois que j'entendais parler d'un vin qui n'était pas le Beaujolais. Je devais avoir 8 ans, quelque chose comme
c'était
ça.
C'était exotique pour
Et pour moi, le vin, c'était le Beaujolais, il n'y en avait pas d'autre.
Oui.
Et donc, à l'âge de 8 ans, donc, j'ai appris qu'il y avait un autre vin qui s'appelle le Jurançon. Et donc, je me rappelle que le professeur, l'instituteur a dû nous expliquer ce que c'était qu'Henri IV. Enfin, bref. Donc, on est tombé dans la légende. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est une très jolie histoire.
Alors, vous parlez également...
Et le Jurançon est un très bon vin. Hein.
Oui, bien
évidemment.
Sûr. De même que Gaillac et Fronton, il y a de très bons...
Ah, des très bons Gaillac. J'ai d'ailleurs bu à midi un Gaillac blanc qui était délicieux.
Oui. Il y a également, d'ailleurs, il est venu à votre place un propriétaire de vigne, un Iranien, œnologue, qui est maintenant d'ailleurs le président des vins de Gaillac, Château Saint-Louis. Bon, vous n'en parlez pas, on ne peut pas parler de tout. Hein. Il y a également, vous parlez du Bordelais comme le premier vignoble du monde. Ce n'est pas vous qui l'avez dit peut-être.
Non, c'est moi. Non,
je et dis vous que le ça... considérez que,
oui,
comme tel.
Oui, parce qu'il fallait avoir... la Bourgogne a passé longtemps pour être le plus du temps. On ne disait pas d'ailleurs de le vin de Bourgogne, on disait le vin de Beaune. Mais pendant très longtemps, parce que tout simplement, le Bordelais était inconnu des Parisiens pendant des siècles, tout simplement parce que le Bordelais était bu par les Anglais. Ouais. Le Bordeaux était bu par les Anglais. Donc, mais aujourd'hui, évidemment, le Bordelais est le premier vignoble du monde parce qu'il a tout. Il a évidemment la superficie. Considérable, ce que n'a pas la Bourgogne. Il a l'abondance et surtout il a la variété des vins, puisque vous y trouvez aussi bien des petits vins. Alors évidemment, tout le monde est château là-bas, mais enfin,
oui.
Un peu une exagération quand même. Alors
ça va
des grands vins évidemment qui sont classés, qui ont été classés en 1855, jusqu'au Bordeaux et Bordeaux supérieur. Mais il y a aussi les Yquem, il y a aussi les Graves, il y a aussi les Saint-Émilion, il y a aussi les Pomerol. Donc il y a une diversité de grands vins, de très grands vins et de vins moyens et de petits vins, j'oubliais les crus bourgeois, qui font que, à mes yeux, même si mon cœur est bourguignon, je pense que le Bordelais et les vins de Bordeaux, enfin l'ensemble du vignoble bordelais est le premier du monde.
J'étais à Bordeaux dernièrement et des amis bordelais m'ont dit que lors de la dernière exposition, je ne sais plus comment elle s'appelle,
il y avait Vinexpo.
Vinexpo, oui. Les vins d'ailleurs c'était nettement amélioré. Ça ne vous fait pas peur?
Ben si, ça fait peur d'ailleurs. Il est temps d'ailleurs que ils en ont pris conscience, que les vignerons français s'aperçoivent qu'ils n'ont pas le monopole des bons terroirs, des bons cépages et des bons ouvriers qu'ailleurs, que ce soit au Chili, en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et ailleurs, il y a de très bons... D'ailleurs, ce sont souvent nos propres ouvriers qui sont allés leur porter la bonne parole il y a 30 ou 40 ans et depuis, eux-mêmes ont fait des progrès considérables et ce sont des rivaux et dans cette bataille presque cette guerre des vins qui oppose les vins français à beaucoup d'autres, vins italiens ou vins espagnols, eh bien, il était temps que les Français prennent conscience de la menace et ils s'efforcent dans tous les vignobles français de privilégier la qualité au détriment... privilégier la qualité au détriment de la quantité.
Exactement. Voilà, le dictionnaire amoureux du vin, édité par Plon. C'est un ouvrage dans lequel, Bernard Pivot, vous nous faites partager vos émotions, vos connaissances œnologiques, et puis ceci avec clarté et humour. Un grand merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.